Vous écoutez, on lit pour vous.
En Ontario, la télémédecine au service des aînés francophones. Un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 25 juillet 2025 dans Le Devoir. Les chutes sont la cause de 9 hospitalisations sur 10 chez les aînés canadiens. En Ontario francophone, des services de télémédecine tente de prévenir ces accidents et de briser l'isolement chez les 55 ans et plus. Une initiative qui démontre que la télésanté, bien qu'elle ne soit pas une formule passe-partout, peut être adaptée aux besoins des communautés, explique une chercheuse. Le programme a vraiment été développé pour améliorer l'accès aux soins et aux services de prévention des chutes pour les francophones vivant en situation minoritaire, explique la docteure Jennifer O'Neill, physiothérapeute et professeure adjointe à l'Université d'Ottawa, ainsi que chercheuse à l'Institut de recherche santé Bruyère. Depuis 2008, le programme nommé « Marche vers le futur » s'appuie sur la télésanté afin de rejoindre certains groupes d'aînés francophones. À l'aide d'un animateur formé, les participants apprennent des exercices à faire à la maison et découvrent de bonnes pratiques à suivre en matière de sécurité. Que ce soit dans un centre communautaire ou à la maison, de façon synchrone, les personnes âgées développent des outils pour éviter les chutes. Le tout grâce à la télémédecine. L'Ontario mise depuis 2019 sur sa stratégie « Priorité au numérique ». De nombreux projets pilotes et initiatives numériques ont vu le jour, poussant certains chercheurs à se pencher sur la réalité de l'accès et de l'équité en matière de santé numérique. L'équipe de Mme O'Neill a récemment mené une enquête auprès des usagers du programme Marche vers le futur pour comprendre comment est perçu l'usage des technologies chez les personnes âgées. Les résultats de l'étude, qui seront publiés en septembre, montrent que les aînés sont généralement capables d'obtenir des services de télémédecine et qu'ils ont une meilleure littératie numérique que l'on pourrait croire. Les gens sont nerveux la première session, mais après ça, ils se sentent hyper à l'aise, souligne la chercheuse. La technologie permet aussi de regrouper des aînés répartis à travers l'Ontario, parfois même au-delà des frontières provinciales. Ça nous permet d'intégrer des personnes de communautés très isolées, où il était difficile de rassembler suffisamment de francophones pour former un groupe, précise la docteure O'Neill. Ça ne remplace pas tous les services. Mais malgré les avancées, la télémédecine ne fait pas l'unanimité. Pour certains groupes d'aînés, elle ne peut remplacer le contact humain ni les soins en personne. Il n'y a pas une approche qui convient à tout le monde, affirme Michel Tremblay, directeur de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario. Selon lui, la télémédecine peut être utile pour des suivis ponctuels, mais elle ne remplace pas les véritables services sur le terrain, notamment pour les personnes plus vulnérables ou moins à l'aise avec les outils numériques. Pour un petit suivi, ça va, mais ça ne remplace pas tous les services, soutient-il. Cette prudence reflète une réalité vécue sur le terrain. Si la télésanté ouvre des portes, elle risque aussi d'en fermer pour ceux qui n'ont pas l'équipement, la connexion ou les capacités pour s'en servir. Les chercheurs eux-mêmes reconnaissent qu'il faut concevoir ces programmes en tenant compte des contextes locaux, des barrières économiques et des différences culturelles. Il n'y a pas de solution unique, il faut adapter les outils aux réalités de chaque communauté, résume la docteure O'Neill. Selon elle, plus de recherches devraient être menées en amont, avant de développer des outils et des services numériques. C'était en Ontario, la télémédecine au service des aînés francophones. Un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 25 juillet 2025 dans Le Devoir.
Cheminée au Manitoba, une chronique d'Antoine Quentin-Brault, parue le 12 juillet 2025 dans La Liberté. Il y a au Manitoba un phénomène riche en significations philosophiques. Ce n'est pas le seul phénomène de ce type, bien sûr, et on ne le retrouve pas seulement au Manitoba non plus. Je ne prétends pas non plus du tout être original en l'identifiant, mais il est tellement présent au Manitoba qu'il est devenu banal. Il vaut la peine de réactiver son enseignement. On l'aperçoit mieux l'été, par exemple dans la région de Spruce Woods, ou tout près de Lorette et de la Broquerie, ou encore à Winnipeg même, en l'occurrence à La Fourche. Ce phénomène, je l'appellerai le cours des rivières. Certes, les nombreuses rivières du Manitoba coulent selon un débit X à partir du point Y jusqu'au point Z, tous des éléments que l'on peut mesurer et rendre compréhensibles par des données mathématiques universelles. On pourra alors comparer nos rivières à celles d'autres provinces, pays, régions, etc. Mais là n'est pas la question. Par cours des rivières, il faut comprendre la façon dont les rivières cheminent et perdurent. Il faut entendre comment les rivières ont décidé, et décident encore aujourd'hui, parfois violemment, de changer de direction parce qu'elle se trace dans la dureté de la terre et lui donne un sens. Le cours des rivières au Manitoba nous enseigne, sans parler, la valeur profonde d'un méandre. Nous aimons les lignes droites, probablement parce qu'elles sont plus efficaces et que notre monde exige l'efficacité, la performance. La ligne droite est certainement le chemin le plus court. Nous cherchons partout la dernière ligne droite qui nous rassure sur notre capacité de progresser et de terminer. Nous ne voulons pas gaspiller notre temps. Mais si la ligne droite est certainement la plus courte, est-elle plus profonde et tenace? Les rivières ont leur propre méthode, c'est-à-dire leur propre façon d'aller leur chemin. Elles cheminent par méandres et sont, pour cette raison, résistantes et puissantes. Elles se sont refusées la ligne droite précisément parce que cette ligne droite les mettrait en péril. Elles ont progressé en tournant, en cherchant des résistances qu'elles ont ensuite contournées. Elles n'ont pas cherché à s'économiser. Elles ont marqué le sol de leur volonté et nous le rappellent encore parfois au printemps lorsqu'elles débordent. Peut-être aurions-nous quelque chose à gagner à cheminer comme les rivières du Manitoba. Peut-être y a-t-il une leçon à tirer de ce qui a gagné sa puissance en tournant sans cesse et qui reconquiert sa place toujours encore en refaisant la même chose. Peut-être pourrions-nous apprendre à grandir en s'ancrant solidement dans le monde si nous nous laissions cheminer par méandres. Petit à petit et peu à peu, gagner en confiance et en résilience en se donnant à soi-même les outils d'affronter la résistance pour en faire notre ami. Et que dire de la rencontre de deux rivières, comme cela se produit à La Fourche? Deux puissances se rencontrant, une emportant l'autre, non pas parce qu'elle a défait l'autre, bien plutôt parce qu'elle s'est alimentée de l'autre sans mettre fin à son cours. Une volonté qui s'impose à une autre, mais en aimant la volonté première qu'elle ne veut pas éliminer. Travailler ensemble, plutôt, cheminer ensemble, aller jusqu'au bout de soi pour aider un autre. Il y a tout à gagner à aller cheminer avec la rivière, à pied, en canot. C'était « Cheminer au Manitoba », une chronique d'Antoine Quentin-Brault parue le 12 juillet 2025 dans La Liberté.
Après le prêt hypothécaire, la quittance? Un texte de Martin Vallière, paru le 8 juin 2025 dans la presse. Enfin terminé le remboursement de votre prêt hypothécaire? Bravo! Mais attention avant de proclamer votre liberté nouvelle, du moins tant que vous n'aurez pas fait retirer par un notaire le privilège sur votre propriété inscrit au registre foncier par votre prêteur. Ça s'appelle une quittance hypothécaire. Et son bon usage, en fin d'emprunt, demeure méconnu. Avis d'expert. Qu'est-ce qu'une quittance hypothécaire? Il faut d'abord rappeler le fonctionnement d'un emprunt hypothécaire résidentiel avant d'expliquer la quittance. Pour l'essentiel, un prêt hypothécaire résidentiel est un contrat d'emprunt qui est garanti par un actif immobilier comme une maison, un condo ou un chalet. Ainsi, lorsque l'on contracte un prêt hypothécaire, le prêteur fait enregistrer un droit ou privilège sur la propriété financée dans le registre foncier par l'entremise d'un notaire. Ce privilège de garantie hypothécaire se résume habituellement à permettre au prêteur de saisir la propriété qu'il finance en cas de manquement de l'emprunteur aux conditions de son contrat de prêt hypothécaire. Par exemple, des retards ou des défauts de paiement d'intérêts et de remboursement des fonds empruntés, une perte de valeur importante de la propriété financée par négligence d'entretien, par une perte d'assurance ou par un changement d'usage majeur. Cela dit, quand un emprunt hypothécaire parvient à terme et est pleinement remboursé, le prêteur ne renonce pas automatiquement à son privilège inscrit sur la propriété financée. La fin du remboursement d'un emprunt hypothécaire n'équivaut pas à la fin du lien de garantie hypothécaire du prêteur sur la propriété financée, avertit Marc-Antoine Bernier, notaire conseil chez Éducalois. Pour terminer ce lien sur sa propriété, l'emprunteur devra s'adresser à un notaire pour obtenir le retrait ou la quittance du lien de garantie hypothécaire du prêteur sur sa propriété. La quittance est un document notarié dans lequel le prêteur hypothécaire reconnaît qu'il a été remboursé en totalité et qu'il consent au retrait de son droit hypothécaire, sa garantie, inscrit au registre foncier sur la propriété financée. Faut-il s'empresser d'obtenir une quittance? En fait, ça dépend de la situation du propriétaire. La majorité des emprunteurs hypothécaires ne savent pas ou ne sont pas informés par leur prêteur qu'ils ont besoin d'une quittance notariée après la fin de leur remboursement de prêt hypothécaire si, par exemple, ils prévoient une revente prochaine de leur propriété résidentielle, signale Ryan Lahaye, courtier hypothécaire et directeur chez RLH Planiprêt à Laval. Aussi, si un propriétaire a négligé de quittancer les droits inscrits sur sa propriété par les différents prêteurs qui se sont succédés au fil des ans, il pourrait se retrouver en situation compliquée et coûteuse d'avoir à régler plusieurs quittances simultanément dans le registre foncier. Et ce, afin de répondre aux conditions de clarté de titre foncier de la part d'un acheteur de la propriété et de son prêteur hypothécaire. Le coût total d'une quittance simple, avec un notaire, approche le millier de dollars, mais il peut s'élever à 3 000 ou 4 000 dollars dans une situation de quittance multiple à inscrire au registre foncier, avertit Ryan Lahaye. Peut-on reporter une quittance hypothécaire? Oui, mais à condition de prévoir la réutilisation du lien hypothécaire inscrit sur sa propriété dans le registre foncier pour faciliter l'obtention d'un nouvel emprunt auprès de son prêteur hypothécaire. Un propriétaire qui a terminé son remboursement d'hypothèque peut ressentir une fierté en se dépêchant d'inscrire sa quittance au registre foncier. Mais Il ne s'agit pas toujours de la meilleure façon de procéder en matière de planification financière, signale Louis-David Lafortune-Poulard, directeur et associé chez Momentum Cabinet Hypothécaire à Joliette. Il mentionne l'exemple de propriétaires avec une bonne valeur nette de leur maison libre de dette, de l'ordre de quelques centaines de milliers de dollars, mais qui auraient peu de fonds disponibles rapidement en cas de gros imprévus budgétaires ou de nouveaux projets importants. Une bonne façon de prévenir un tel stress budgétaire serait d'obtenir une marge de crédit à taux d'intérêt de type hypothécaire et d'un montant pouvant s'élever jusqu'à 65 % de la valeur nette de la propriété résidentielle, indique M. Lafortune-Boulard. Or, le maintien du lien de garantie hypothécaire déjà inscrit sur la propriété au lieu de le quittancer après la fin du remboursement du prêt hypothécaire peut faciliter l'obtention d'une marge de crédit hypothécaire à coût avantageux auprès de son prêteur établi. S'empresser d'obtenir la quittance d'un lien hypothécaire sur sa propriété peut s'avérer une erreur coûteuse de planification financière si, par exemple, on devait contracter ensuite un prêt personnel à taux d'intérêt plus élevé que les taux hypothécaires pour payer l'achat d'un nouveau véhicule ou des travaux importants sur notre propriété, relate Louis-David Lafortune-Boulard. Par ailleurs, les experts consultés par la presse signale que le maintien du lien de garantie hypothécaire sur une propriété résidentielle au lieu d'en obtenir la quittance peut servir de mesure préventive contre le risque de fraude immobilière. Parfois décrit comme le vol de maison, il s'agit de l'appropriation frauduleuse d'un titre de propriété résidentielle qui est libre de lien de garantie hypothécaire dans le but d'une revente frauduleuse à l'insu de son propriétaire légitime. Ces fraudeurs ou voleurs de résidence recherchent les propriétés nouvellement libérées d'un lien hypothécaire parce qu'ils risquent beaucoup moins d'être interceptés par un intermédiaire, souvent un ancien prêteur hypothécaire, qui détient encore un privilège sur la propriété, décrit Ryan Lahaye chez RLH Planiprêt. Cet intermédiaire devrait consentir à retirer ce privilège pour donner suite à une transaction sur la propriété, ce qui constitue un obstacle embêtant pour des fraudeurs immobiliers et une forme de protection pour les propriétaires résidentiels sans dette hypothécaire. C'était Après le prêt hypothécaire, la quittance, un texte de Martin Vallière, paru le 8 juin 2025 dans La Presse.
Ras-le-bol. Un texte d'Émilie Nicolas, paru le 24 juillet 2025 dans Le Devoir. Je rentre de Tunisie, où l'on compte un nombre remarquable d'avenues et de places portant le nom de 14 janvier 2011, commémorant la fuite du dictateur Ben Ali qui a dominé le pays durant 23 ans et la première des révolutions de ce qu'on a appelé par la suite le printemps arabe. L'une des questions maintes fois ressassé durant mon séjour, mais qui n'a jamais complètement trouvé de réponse, si cela est même possible, est « Qu'est-ce qui crée le moment où un peuple décide qu'il en a marre et se soulève? » L'un des ingrédients les plus patents de la révolte semble être l'expérience de l'humiliation collective ou, dit à l'inverse, le réflexe de défense de la dignité humaine. Je ne parle pas ici de colère contre l'injustice, qui peut certes mobiliser plusieurs personnes, mais qui, surtout lorsqu'elle touche d'autres que soi, reste souvent trop abstraite pour mobiliser la quasi-totalité des masses. Si l'humiliation déclenche des réactions aussi fortes, c'est qu'elle touche à l'instinct de survie. Politiquement, elle joue, quand c'est qui nous sommes comme personne qui est attaquée. Dans le cas de la Tunisie, c'est Mohamed Bouazizi, un vendeur de légumes ambulant, âgé de 26 ans, qui est devenu le symbole de l'humiliation collective. En décembre 2010, il est arrêté par la police parce qu'il ne possède pas de permis de vente. Les autorités lui confisquent sa marchandise, qui lui permettait de contribuer à subvenir aux moyens de sa famille. Devant le mépris et la faim de non-recevoir de la bureaucratie à son égard, il s'immole devant l'administration locale et meurt de ses blessures quelques jours plus tard. Le traitement humiliant de Bouazizi par les autorités et l'ultime geste de ras-le-bol de ce dernier ont trouvé un écho chez la jeunesse des classes populaires qui pouvaient s'identifier à sa condition. Sa révolte est devenue la leur. En Occident, ce sont peut-être les mouvements féministes qui ont le mieux manié le vocabulaire de l'humiliation dans les années 2010. Il est temps que la honte change de camp, est l'une des phrases qu'on a le plus répétées dans la foulée de MeToo. Plus que les tribunaux, ce sont les mœurs, les attentes sociales et les normes comportementales qui ont évolué au cours de la dernière décennie. C'est que les femmes forment tout de même 50% de la population. Il serait peut-être gênant qu'on se lève et qu'on se casse. En ce sens, la lettre ouverte de Gilbert Rozon, publiée dans la presse la semaine dernière, cherchait à remettre à leur place bien plus de femmes que les seules courageuses qui sont devenues depuis longtemps un symbole de notre courage à toutes. La flambée de réactions aura achevé de le démontrer. Vous remarquerez que je viens de comparer des mouvements de ras-le-bol complètement différents et ayant un ancrage dans des sociétés très distinctes. C'est que l'humiliation ne se mesure pas objectivement en termes d'aisance économique ou de liberté politique. C'est une manière d'être traité par les puissants de ce monde qui nous fait nous sentir sales, crasses, miteux, honteux, petits, vils, minables, moindres. Vient un moment où il y en a marre, et ce, peu importe les statistiques sur le PIB, les indices de développement ou l'espérance de vie. À propos des puissants du monde, ceux-ci me semblent jouer à un jeu particulièrement dangereux pour eux-mêmes en cet été 2025. D'abord, parce que l'écart entre les riches et les pauvres a atteint des niveaux inouïs, alors que les milliardaires jouent à la politique de manière ostentatoire pendant que les services à la population et les acquis des mouvements des travailleurs reculent, ici comme ailleurs. L'interventionnisme d'État, la semaine de 5 jours, le filet social ou le droit de grève sont des concessions que les capitalistes du 20e siècle ont dû faire pour éviter les soulèvements populaires, socialistes ou autres, et se maintenir au pouvoir. À force de gruger les piliers du compromis qu'ils ont érigé eux-mêmes, ils risquent d'être rappelés à ce pourquoi ils ont été mis en place. Aux États-Unis, les conditions de la révolte se rassemblent. À New York, Zoran Mamdani, 33 ans, ouvertement socialiste, a remporté les primaires démocrates pour la mairie de la mégapole. Il y a quelques années, un tel tour de force aurait été Impossible. Ensuite, parce que, chaque fois qu'on pense avoir atteint le fond de l'horreur à Gaza, on se rend compte que non, ce n'est pas le cas. Après avoir orchestré une campagne pour jeter l'opprobre sur l'UNRWA, la seule organisation ayant l'expertise nécessaire pour distribuer les vivres sur le territoire palestinien, les gouvernements des États-Unis et d'Israël ont inventé la Gaza Humanitarian Foundation, qui met désormais la population à risque d'être fusillée par les forces israéliennes si elle cherche de la nourriture pour éviter la famine. À propos d'humiliation, imaginez avoir à choisir entre mourir d'une crise de la faim créée de toutes pièces et risquer de mourir sous les balles tirées sur vos familles. Dans les deux cas, on est devant un instrument de contrôle politique. Plus d'une vingtaine de pays, dont le Canada, ont publié encore récemment une déclaration commune de grande indignation dépourvu de conséquences et d'annonces de sanctions sérieuses. Après 20 mois, on est toujours dans le « si vous continuez ainsi, on va se fâcher ». On ne semble pas prendre la mesure de la manière dont l'humiliation du peuple palestinien est venue attiser les consciences populaires dans le sud global qui se souvient du colonialisme, du fouet, de la chicotte, de la violence et du mépris. Le drapeau palestinien est devenu un symbole de ralliement pour la défense des vies humaines dont les grands du monde se fichent. Soit la majorité globale, faut-il le rappeler. On verra bien ce qu'il adviendra pour la postérité de la réputation de nos dirigeants qui ne l'ont pas encore compris. Les mièvreries devant des enfants affamés et fusillés, ce n'est pas comme si ça s'oubliait facilement. En créole haïtien, on dit « crayon pep la pa djen gom ». Le crayon du peuple n'a pas de gomme à effacer. C'était « ras-le-bol ». Un texte d'Émilie Nicolas, paru le 24 juillet 2025 dans Le Devoir.